Du 2 au 27 novembre, le Théâtre de la Bordée présente Un sofa dans le jardin. Une coproduction avec le Théâtre Niveau Parking dans le cadre de son 25e anniversaire. Fable moderne et œuvre collective, Un sofa dans le jardin est une comédie tragico-musico-chorégraphique où poésie et ironie marchent main dans la main. Une délicieuse plongée humoristique mise en scène par Michel Nadeau.
Informations et réservations au 88-694-9721 ou bordée.qc.ca.
Devenir membre de CKRL, c'est appuyer la première radio communautaire francophone en Amérique du Nord. Fidèle à ses nouvelles couleurs et à son nouveau slogan, le 89.1 et ses partenaires offrent à ses membres des rabais aussi intéressants que variés dans les commerces suivants. Au Poble d'Orsay, à l'Abraham-Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Tous les détails à ckrl.qc.ca. Plus que jamais, CKRL cultive tes
goûts. Au moment où on se parle,
que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique,
dans le monde du sport,
au cœur de la communauté artistique,
ou encore à l'international,
tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre.
Le rôle de mon journal?
Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité et une analyse pertinente de l'actualité.
Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir.
CKRL, Cultive TV.
Oui, bonjour, bonsoir, Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Il est passé 16h, c'est l'émission 7e ciel, regard sur le cinéma. Aujourd'hui, une émission qui va être assez conviviale dans la mesure où on va avoir plusieurs invités. On va se concentrer plus particulièrement sur le cinéma d'animation, comme vous le savez peut-être ou comme vous allez le savoir immédiatement puisque je vous en parle. Ce sont les 9e sommets du cinéma d'animation de Québec qui ont cours cette fin de semaine. En fait, ça débutait hier soir au Musée de la Civilisation et ça se continue jusqu'à demain. Un dernier programme sera présenté à 20h. C'est un événement peut-être central pour ce qui est du cinéma de l'animation tel que présenté à Québec au cours de l'année. C'est un événement organisé par Antitube, donc je m'en occupe de près. Je fais l'aller-retour entre le Musée de la Civilisation et CKRL expressément pour venir vous en parler. Quelques mots sur les 9e sommets du cinéma de l'animation. Qu'est-ce que c'est? Ben, dans un premier temps, vendredi, on a présenté une série de films de publicité réalisés en France entre les années 10 et les années 70 qui s'appelait « Fignol et main ». C'est une série de pubs réalisée par des animateurs particulièrement inventifs qui ont en fait utilisé les contraintes de la publicité pour faire des propositions plastiques, esthétiques, expérimentales, renouvelées, extrêmement surprenantes. C'était projeté sur pellicule essentiellement, en 35 mm. Hier, il y avait des films muets, évidemment, puisque ça remonte aux années 10, jusqu'aux années 70, avec une imagerie psychédélique qui parfois semble assez éloignée du sujet pour lequel les films ont été faits, par exemple des pubs des sceaux. Nous allons parler plus en détail de cette programmation-là, qui était particulièrement surprenante, que peut-être certains d'entre vous ont raté hier, qui sera représentée à Montréal la semaine prochaine, parce que les sommets du cinéma d'animation auront lieu à Montréal également la semaine prochaine. C'est un événement qui se fait avec Antitube et la Cinémathèque québécoise. Donc, normal que ça se retrouve à Montréal très bientôt. Fignol et main, ce programme de publicité française, on en parlera avec Jean-Baptiste Garnero. Jean-Baptiste Garnero qui est archiviste, en fait plutôt, pour être plus précis, documentaliste et programmateur au sein des archives du film français qui dépend du Centre national de la cinématographie en France. Donc, Jean-Baptiste sera là dans la dernière partie de l'émission. Auparavant, on aura des échanges avec Marco Deblois. Marco Deblois, c'est quelqu'un qui s'occupe à l'année de la conservation et de la programmation du cinéma d'animation à la Cinémathèque québécoise. C'est un collaborateur de première main ici à Québec lorsqu'on fait les sommets du cinéma d'animation, dans la mesure où c'est lui qui concocte, si on veut, le cœur de la programmation des sommets, qui est constitué d'un panorama international de films, en fait, qui proviennent aussi bien, comme le dit son titre, de Chine, d'Estonie, de Pologne, du Chili, de la Suisse, de la France, évidemment du Québec, du Canada. J'en passe du Japon, mais j'ai l'impression que quand je dis Chine, Japon, Estonie, je pourrais répéter Estonie, Chine et Japon parce que il y a des esthétiques comme ça qui se recoupent d'un pays à l'autre. Parfois, des esthétiques aussi extrêmement contradictoires qui sont réalisées dans un même espace géographique et dans un même espace de production. Par exemple, au sein de l'Office national du film, c'est le cas. Il y a une richesse dans la production et une variété des points de vue et des thématiques qui font en sorte que le panorama international, ben des fois, nous permet de voir des recoupements des films chinois, des films français ou canadiens ou américains et le reste. Donc, on parlera plus longuement de ce panorama international, panorama qui est présenté en fait à 13h, 15h et 20h samedi et dimanche. Bon, en ce moment, le programme de 20h reste à voir. Le programme de 15h, ben, il est sur le point de se terminer. Ça dure 75 minutes chaque fois. Donc, pour ceux qui sont intrigués, qui n'ont pas vu les films des programmes de cet après-midi, vous pouvez aussi vous pointer au musée demain ou encore les revoir, puisque ce sont des œuvres qui risquent de circuler assez peu et surtout pas présentées dans des conditions telles qu'elles le sont en ce moment, souvent projetées, quand c'est possible, en pellicule 35 mm. Donc, ça, ce sera dans la deuxième partie de l'émission qu'on parlera avec Marco. Et puis, tout à l'heure, en fait, dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec John Blouin. John Blouin qui tend à devenir, ça reste à confirmer, mais qui tend à devenir un chroniqueur à l'émission Au Septième Ciel. Je crois que John, on pourra le redire tout à l'heure, ou on pourra médire aussi sur ce que je suis en train d'annoncer, veut nous entretenir un peu des débuts du cinéma de l'animation. Et peut-être, puisqu'on l'avait invité il y a deux ou trois semaines pour parler de l'avant-cinéma, tout ce qui s'est fait dans les arts scéniques au 19e siècle, entre autres, et fin 18e qui annonçait le cinéma, peut-être qu'on va parler aussi de ce qui précède le cinéma d'animation en tant que tel, projeté avec une pellicule émulsionnée. Donc, avant l'invention du cinéma, il y avait déjà un peu d'animation qui passait, évidemment, sur des écrans qui n'étaient pas des écrans de projection de cinéma, mais qui étaient des écrans quand même. Donc, évidemment, l'écran précède le cinéma. Et si on parle d'écran, ben, peut-être que le cinéma d'animation est aussi une bonne entrée pour comprendre les débuts. L'histoire du cinéma. Donc, ce sera le premier sujet de conversation qu'on aura aujourd'hui avec John Blouin, Guillaume Lafleur, avec vous sur les ondes de CKRL jusqu'à 17h30. On se reparle tout de suite. Alors, de retour en ondes, vous écoutez au 7e ciel, on vient d'entendre William Parker Trio avec William Parker à la contrebasse, Ahmed Drake à la batterie et Billy Bang au violon sur un album qui s'appelle Scrapbook, qui date de 3-4 ans. Alors, voilà, on va parler un peu de cinéma d'animation, retourner, comme je le présumais, vers l'avant-cinéma. Donc, on va de l'avant en retournant aux origines du cinéma d'animation et on va parler de ça avec John Blouin qui est avec nous en ondes. Bonjour John, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ben écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir et de parler de sujets aussi stimulants.
Parlons de sujets stimulants. Oui. La dernière fois, on s'est amusé à errer avec notre ami Robertson et ses fantasmagories. On a coupé un petit peu, on a entrecoupé une des choses qu'on va parler. Là, ce que je proposerais, c'est comme un genre de retour en arrière, peut-être même une fabulation sur une forme d'écho des technologies du passé qui ont donné quelques pratiques du cinéma, en particulier du cinéma d'animation. On va aller loin en arrière. Il y a une fois, pour X raisons, j'étais dans la Christchurch cathédrale. J'avais réussi à pouvoir rentrer avec une caméra seul, puis je filmais les reflets des vitraux qui se déplaçaient. J'ai eu le plaisir de faire ça avec quelqu'un qui accordait un orgue magnifique, puis qui m'a joué du Bach pendant une heure. C'était assez enlevant comme truc. Je pense que j'ai cru en Dieu une bonne fraction de seconde. En voyant défiler ça, je me suis rendu compte que peut-être qu'en face de moi, il y avait un des dispositifs de la projection du cinéma. Par exemple, dans le cinéma, on parle de cinéma avec la pellicule, on a une surface, comme les vitraux, une surface transparente, des fois peinte, des fois plaquée, filmée. On a une source de lumière, puis on a un écran. Avec le vitrail, il y a à peu près la même chose. Il y a la vitre, il y a l'iconographie, puis il y a le soleil qui sert de lampe xénon, puis il y a le reflet qui se promène. La différence dans le mouvement, c'est que c'est le soleil, en fait, qui dans sa grande course, fait en sorte que le reflet se bouge, le reflet est en mouvement, le reflet se transforme. Donc, on a d'un côté tout ce processus-là de cinéma d'animation. Donc, pour moi, une des parties du cinéma où est-ce qu'on le retrouve le plus loin dans les mêmes dispositifs, c'est dans les vitraux, dans les reflets des vitraux. Si vous avez la chance de prendre le temps de s'asseoir puis de porter attention à ça, c'est un type de cinéma qui devient comme du temps concentré. C'est comme du 24 images secondes, mais on peut voir tout le processus du cinéma qui est là-dedans.
Ouais, si on est patient, en fait, on reste devant un vitrail, puis on va voir un mouvement qui s'exprime principalement par la lumière, par le reflet.
Exactement, pareil comme dans le cinéma. On retrouve un peu la même idée avec la même résonance avec ce qu'on a parlé un peu, les lanternes magiques. Dans les lanternes magiques, on dit que c'est d'origine chinoise. Mm-hmm. Ces images mouvantes-là sur écran, il paraîtrait qu'il y a un magicien devant un empereur chinois nommé Cao Wang, qui est attesté 121 ans avant Jésus-Christ, donc dans les premières lanternes magiques. Puis on pouvait voir un immense dragon déferlé autour, mais c'était la même technique, c'était des plaquettes de verre sur lesquelles on avait dessiné une iconographie, puis qu'il y avait une lumière. Avec les lanternes magiques, il y en a beaucoup qui disent que c'est l'ancêtre du 7e art. Il y a la même chose, il y a la lumière, il y a la transparence, il y a le reflet. Le mouvement vient de plusieurs façons, dont une, c'est dans la juxtaposition d'images. Par exemple, tu as une image, puis tu en as une autre par-dessus, puis tu fais apparaître un, faire disparaître l'autre, un peu comme un tomatrope en animation. Puis c'est ce qui donne, avec la persistance rétinienne, on revient à la barre du cinéma d'animation, l'image-mouvement, l'image en mouvement des lanternes magiques. On prend la même idée, même surface, la transparence, etc., etc. Donc, ces peintes lanternistes-là, ils vont devenir à 24 images secondes des cinéastes d'animation. Il y a un procédé d'animation que j'aime particulièrement, c'est où est-ce qu'on passe de la fixité des vitraux en mouvement qu'il y a de la peinture dessus à la peinture qui bouge sur le verre. C'est l'animation sur peinture sur verre. Il y a une grande cinéaste d'animation, Martine Chartrand, qui a travaillé, par exemple, sur un de ses films, En noir, Black Soul, qui a gagné plusieurs prix à travers le monde. Mais son film, si je ne me trompe pas, ça a duré environ 7 ans dans le noir à travailler. Elle a travaillé beaucoup avec ses mains, ses paumes, à sculpter des images comme ça, à rendre le cinéma avec ces mêmes dispositifs-là, à faire du cinéma d'animation image par image, 24 images par seconde. Là, la différence, c'est que c'est drôle parce qu'on rentre dans son studio où est-ce qu'elle travaille, c'est dans le noir, il y a une lumière qui en dessous d'une vitre, puis elle travaille par-dessus ça. Puis, il y a une caméra, si je ne me trompe pas, c'est une caméra 35 mm qui capte ça. Donc, on est dans les mêmes processus que les vitraux de cathédrale. Dans le cinéma, dans ce type de cinéma, il y a Alexandre Petrov qui a été oscarisé avec Le vieil homme et la mère. Est-ce que tu as eu la chance d'apprivoiser cette œuvre-là, Le vieil homme et la mère d'Hemingway?
Oui, ben écoute, c'est légendaire, en fait, la version qu'a fait Petrov. Mais moi, je ne l'ai jamais vue, en fait, puis je ne dirais pas que je le regrette amèrement parce que le temps ne m'est pas compté. Là. Ce sera toujours possible de le voir à un moment donné. Je crois que ça a été tourné en IMAX, si je ne me trompe pas.
Oui, je crois que oui, mais je ne
suis pas voir,
certain. On le demandera à Marco tantôt.
Ouais,
puis elle a étudié avec lui pour apprendre à faire ce type de cinéma d'animation-là.
Tu peux dire peut-être que pour les auditeurs que Martine Chartrand, je crois, est une cinéaste qui travaille essentiellement à l'Office national du film.
Oui.
Arme noire, donc Black Soul, c'était d'une durée de combien de minutes? Parce que tu nous disais que ça avait duré 7 ans. Je sais que c'est un peu plus anecdotique, mais ça peut-être
nous aider. C'est moins de 10 minutes, si
moins
je ne me
minutes.
Trompe pas. Quelque chose qui dure 7 ans. Donc, il y a un rapport au temps. On parlait des vitraux tantôt, que ça prend du temps à réussir à voir le mouvement, l'animation. Mais dans ce type-là de cinéma, ça prend aussi du temps à créer cette animation-là à partir de ces mêmes processus-là. Mais donc, la technologie... elle a un peu évolué. Maintenant, là, c'est depuis 2003, elle travaille sur un film qui s'appelle MacPherson, que j'ai vu des petits bouts d'images. C'est assez incroyable, ça va être super. Puis MacPherson, c'est tiré d'une chanson de Félix Leclerc.
Ah oui. Ça, tu penses que c'est un film qui va terminer bientôt?
On ne sait jamais. On ne sait jamais quand elle va terminer. Je pense que
ça fait partie du processus pas avoir en tête le moment où ça se termine.
Ouais,
parce
c'est
que
ça.
C'est tellement un travail appliqué qui demande une patience infinie.
Puis justement, de savoir quand on commence puis quand on ne sait jamais quand on finit, c'est un privilège qu'elle se donne, en fait, de pouvoir faire ça. Puis chacun de ces... je dirais de vitraux ou modernes, c'est une œuvre en soi qu'elle peut faire sécher. Mais sinon, elle travaille à partir du même cadre, puis avec la peinture qui a fait bouger ça. J'ai eu la chance de travailler avec elle dans des suites de performance, puis on pourra peut-être en parler un peu plus tard, du lien entre des gens qui prennent beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à travailler sur des films d'animation. Puis, il y a une envie, grâce à la technologie, cette envie-là La technologie offre une possibilité de faire des performances, de rendre des, de faire des choses rapidement dans le moment, donc dans l'instantanéité, au lieu de prendre 7 ans pour rendre cette instantanéité-là dans une structure de projection normale.
Mm-hmm.
Deuxième extension.
Oui.
Ça se retrouve dans les œuvres de McLaren. Okay. Donc, on parle du celluloïde, on parle de la pellicule, de cette chose transparente qui, avec la lumière, donne une forme d'animation, donne un mouvement. McLaren, avec ses dessins tracés directement sur la pellicule, bon, dont un des pionniers Len Lee avec son Color Box en 1935. Très beau film, vous pouvez le voir sur YouTube assez facilement.
Oui, Len Lee, en fait, c'est un cinéaste qui... d'origine néo-zélandaise, qui est un des pionniers du cinéma expérimental d'animation. En fait, c'est le premier à avoir réalisé des films en grattant directement, en grattant la pellicule, en fait. Donc, en appliquant directement son dessin ou son film sur la pellicule au tournant des années 20, ce qui est assez surprenant, ce qui est vraiment surprenant, très en avance sur d'autres cinéastes qui vont appliquer le même genre de technique. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura l'occasion de voir des films de lui en février prochain à Québec.
Oh, excellent, excellent. Puis c'est un sculpteur aussi que dans ses sculptures, il y avait beaucoup l'idée de mouvement à l'intérieur.
Mm-hmm.
Donc, on revient avec McLaren, dont l'œuvre entière est désormais inscrite comme patrimoine de l'humanité quand même. Il a conçu une planche à dessiner pour réaliser ses films d'animation. Bon, sa planche c'était munie d'un dispositif qui coulissait la pellicule. Puis un endroit translucide pour dessiner image par image. Une pellicule qui est vierge, c'était un écho d'une vitre sans couleur, disons, comme dans nos vitraux. Si vous pouvez aller voir un de ces films assez incroyable, c'est Caprice en couleur de 1949, qui a été co-réalisé avec Evelyn Lambert. Vous allez voir justement la magnificence de ces vitraux-là que je parlais du début, mais c'est encore le même procédé. C'est la transparence, c'est un dessin peint, de la peinture. Ensuite, c'est la lumière, puis ce qui donne le mouvement. Ensuite, il s'est mis à travailler, McLaren, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup de lui, c'est, il disait, c'est « In any art movement, the heart has to move into a new phase ». Ça veut dire que l'animation, c'est la transformation du mouvement, mais l'art aussi doit se transformer avec ce mouvement-là. Il a fait, avec Blinkity Blank, entre autres, petit film, un de mes films fétiches, 1955, qui a fait de la gravure sur pellicule. Donc, il enlevait l'émulsion. Puis là, on pouvait voir... à travers. Donc, il sculptait la lumière directement en la faisant apparaître. Plus tard, c'est Pierre Hébert avec des performances cinéma. Il y avait de la musique en direct. Il y avait des... lui était là avec ses 16 000 mètres, puis il gravait directement. Puis là, ça l'entrait justement dans une nouvelle phase où que la présence du réalisateur était retrouvée. Comme on trouvait, par exemple, dans Les Lanternes magiques, comme on en parlait un peu avec Robertson.
Écoute, John, c'est passionnant, puis je pense qu'il va falloir revenir un peu sur McLaren puis Pierre Hébert. Donc, histoire de ne pas aller trop vite, histoire de suivre le cadre habituel de l'émission, je vais devoir tout simplement marquer une pause, au sens le plus simple du terme, qui est aussi une pause publicitaire, puis on reprend tout de suite après, si t'es d'accord avec moi.
Ça va me donner du souffle.
Parfait, excellent. À tout de suite.
Pour le prochain tirage du Loto 649, le gros lot est évalué à 30 millions. 30 millions, ça change pas le monde. Sauf que...
Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Dans l'édition de novembre du journal Droit de parole, le premier forum québécois sur l'eau. Le Saint-Laurent s'assèchera, prédit un ingénieur à la retraite. Où l'industrie gazière puisera-t-elle son eau? Un dossier de Renaud Blais. Aussi, la face cachée de la coopérative d'habitation. Livre, l'action précède la pensée. Et plus encore. Droit de parole, disponible gratuitement en présentoir dans les quartiers centraux. Droitdeparole.org.
Prenez votre droit de parole.
Cultive tes goûts.
Le matin dès 6h, 7 jours sur 7, notre directeur musical, Daniel Marcoux, vous concocte une sélection toute francophone. Réveillez-vous en français d'abord au 89.1.
C'est le destiné, putain, magnifique.
C'est KRL. Cultive tes goûts.
Et oui, sur les ondes de CKRL, vous écoutez au 7e ciel, on vient d'entendre Stanton Moore, un album qui s'appelle Fly in the Coop. On va continuer la conversation avec John Blouin sur Lanterne Magique, cinéma d'animation et peut-être théâtre d'ombre ou en tout cas l'ombre.
C'est ça, on est directement dans l'ombre. Là, on a parlé en premier du côté lumineux de la chose, on va y aller en négatif. On va commencer avec Platon. Allons-y avec Platon.
Allons-y gaiement.
Je vais lire un petit bout. C'est « Figure-toi des hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière. Ces hommes sont là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu'ils ne peuvent bouger, ni voir ailleurs, que devant eux. La chaîne les empêche de tourner la tête. La lumière vient d'un feu allumé sur une hauteur, au loin derrière eux, entre le feu et les prisonniers, passe une route élevée. » Bon, etc., etc. Et là, il y a l'ombre qui voit sur apparaître sur un écran devant eux. Le cinéma, en général, bon, en plus de parler d'une genre de transcendance métaphysique, notre ami Platon, dans l'allégorie de la caverne...
Qui se trouve dans La République.
Oui, oui, à la page. Non. il a esquissé un genre de dispositif qui ressemble étrangement à celui du cinéma moderne. Donc, les gens assis dans le noir... face à un écran, donc il y a un mouvement qui se passe en phase 2. Puis souvent, ils font en sorte que cette image-là, ils le prennent pour la réalité, chose qui arrive souvent quand on rentre littéralement dans un film, même dans un film d'animation, ça arrive souvent.
Oui, la puissance de l'illusion qui est plus vraie que vraie.
Oui.
C'est une obsession du cinéma, évidemment, qui est réactivée de manière ponctuelle, parfois par la technologie, par exemple avec le 3D.
Puis ça me ramène un peu encore, on revient en Chine, avec les ombres chinoises dans ce spectacle d'ombre-là, le théâtre d'ombre-là. Les ombres chinoises qui appellent le Pingying, ou dans un poème Hans des années 200 avant Jésus-Christ, on parle de ce type de théâtre-là, donc c'est assez lointain. On peut même aller plus loin en allant dans les cavernes, du début de l'humanité où les gens dansaient, puis avec le feu autour, ils faisaient des ombres, puis ça faisait partie du rituel. Encore plus loin, on peut s'amuser avec le fait qu'ils ont découvert des inscriptions, des dessins dans certaines cavernes où un même animal était dessiné 2, 3, 4 fois un peu différemment en surimpression, puis c'était vraiment comme découper le mouvement.
Oui. Tu veux dire qu'il y avait pratiquement des bêtes qui étaient dessinées l'une par-dessus l'autre, puis c'est toujours la même.
Oui, c'est exactement toujours la même, mais avec un mouvement de tête, par exemple.
Hmm.
Donc, déjà là, cette idée-là existait. Je vous parlerai pas directement du théâtre d'ombre chinois, pour une simple raison, c'est que j'ai eu la chance, pendant un voyage en Thaïlande, après 3 heures d'avion, 2 heures de bateau et quelques heures en troc, de me rendre à un des grands maîtres du théâtre d'ombre, c'est Suchat Saptin. Le théâtre d'ombre là-bas, ça s'appelle le Nang Talun. Le processus est très, très simple. La personne qui fait bouger les marionnettes d'ombre est derrière un écran translucide et non transparent, avec des marionnettes de cuir de vache colorées qui font revivre des mythes, qui essaient de montrer les traditions, des histoires, avec ces ombres projetées là. Monsieur Saptin, il a commencé à l'âge de 13 ans. Mmh. Il partait de village en village pour montrer, un peu comme à l'ONF, avec les projectionnistes itinérants, il passait de village en village, de ville en ville, puis il allait compter ses histoires avec un panier rempli. Il pouvait avoir 100, 150 marionnettes. Ces spectacles-là duraient toute la nuit, avec de la musique en direct. toute la nuit, ça l'arrêtait pas. Puis...
Mais dis-moi, ces spectacles-là qui l'ont commencé à 13 ans, est-ce que, j'imagine, lui-même avait des maîtres qui l'ont formé, puis ce genre de tournée-là, est-ce que ça s'inscrivait aussi dans une tradition où lui-même fait partie d'artistes d'ombre thaïlandais qui ont inauguré un principe de tournée itinérante comme ça?
Non, ça faisait partie des traditions, justement, pour aller chercher une forme de cohésion sociale. Mm-hmm. Puis en s'en allant de ville en village, en étant soi-même errant, ben il ramassait d'autres histoires qu'il pouvait retravailler. Puis maintenant, il y a 74 ans, le monsieur, c'est une grande entité là-bas, il m'a fait un spectacle tout seul. J'étais tout seul assis dans la salle en plein jour. Bon, puis qu'est-ce que j'ai trouvé fascinant, premièrement, c'est qu'il fait tout. Il fait les voix. Il me dit que par exemple pendant les grandes guerres, il avait fait des avions. Donc il allait plus loin que des personnages traditionnels avec qu'est-ce qu'il faisait. Puis il y a une chose qui m'a jeté en bas de ma chaise qui était assez basse en fait, c'est que ça donnait du 3D lorsqu'il s'approchait de l'écran avec les marionnettes. Donc pour aller un peu rapidement, ces types de théâtre-là se retrouvent par exemple dans des œuvres de Lotte Reiniger, mm-hmm. Aucassin, Nicolette. C'est vraiment du théâtre d'ombre un peu traditionnel à la façon européenne. Cette cinéaste-là qui a fait des films assez incroyables qui ont été salués par Renoir et Brecht. Et c'est vraiment un travail de captation de ces ombres sur l'écran. Ensuite, on peut aller un peu plus loin. Il y a des films comme, par exemple, le théâtre d'ombre de Bali, qui se retrouve dans L'homme sans ombre, très, très beau film de 2004. Puis tout ça pour arriver à quelque chose d'assez incroyable.
Mais dis-moi, c'est quoi, juste un instant, L'homme sans ombre, c'est quoi? Est-ce que c'est un long métrage inspiré du théâtre d'ombre balinais? Ou...
Non, c'est un court métrage où on voit vers la fin, justement, si je ne me trompe pas, c'est je ne sais pas si c'est de la peinture sur verre. Faudrait demander à Marco, justement.
Mm-hmm.
Vers la fin, on voit justement le théâtre d'ombre de façon traditionnelle, comme c'était fait, mais sauf que c'est une représentation de ce théâtre-là. Pour finir, j'aimerais ça aller vers... Moi, je pense que c'est un écho de ce théâtre d'ombre-là, sauf que là, tout se passe sur l'écran, dans l'écran, avec l'écran en main. C'est l'écran d'épingle, oui. D'Alexiev. Cet écran-là, c'est un écran où est-ce que c'est perforé avec des milliers de petits trous dans lesquels on a inséré des épingles qui sont en fait des petits bouts de cordes de piano. Puis, avec cet écran-là, c'est tout simplement que lorsqu'on appuie d'un côté, chaque épingle crée une petite ombre. Donc, en appuyant, l'ombre se crée. Donc, on sculpte l'écran, on sculpte l'ombre directement sur l'écran. Pour ce type de cinéma d'animation-là, c'est Jacques Drouin qui est la pierre angulaire de ce type d'animation-là.
Oui, c'est la référence.
La référence.
À l'Office national du film. Et si je ne me trompe pas, il y a un écran d'épingle à l'Office national du film qui est un des seuls au monde, si ce n'est le seul. Est-ce que tu peux me confirmer ça?
C'est un des seuls au monde. Il y en a d'autres qui s'en font un peu plus maison. Mais allez voir ces films, par exemple, Le paysagiste ou L'heure des anges, avec qui il a travaillé avec Marionettis Pajard. C'est magnifique. Il y a même Arthur Lipset, si je ne me trompe pas, qui a déjà travaillé, fait des tests avec ça. Puis, ce type de façon de faire là, ça l'amène d'autres cinéastes maintenant qui se mettent à travailler là-dessus. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un film en préparation à l'ONF qui se fait à nouveau sur ce type d'écran d'épingle-là qui se trouve être assez formidable à travailler avec.
Ben écoute, John, c'est passionnant toute cette relation entre les traditions liées au théâtre d'ombre, entre autres, et puis traditions thaïlandaises que je méconnais, sur lesquelles on devra sans doute s'étendre encore dans d'autres conversations, puisque tu es allé voir de près comment ça se passe. Encore aujourd'hui, cette tradition qui est soutenue d'ailleurs par l'UNESCO, si je me souviens bien, tu m'en avais parlé, tu m'en avais glissé un mot. Merci d'avoir pris le temps de passer. Je peux dire en terminant sur ce premier bloc de l'émission Septième Ciel que, par exemple, les films de Jacques Drouin, vous pouvez certainement les voir, ainsi que ceux de l'épisode qu'on a nommé à la fin, sur le site de l'ONF. Voilà, on va recevoir, après un instant musical, Marco Deblois qui va venir nous entretenir du panorama international des sommets de cinéma et d'animation de Québec. À tout de suite. Retour en onde au Septième Ciel, deuxième bloc de conversation autour du cinéma d'animation, puisque Toute la fin de semaine, c'est les 9e semaines du cinéma d'animation de Québec qui se déroulent en fait depuis vendredi au Musée de la Civilisation, qui vont continuer demain. Un des cœurs de la programmation, comme je le disais en début d'émission, c'est évidemment le panorama international, présenté samedi et dimanche à 13h, 15h et 20h. Donc, trois volets distincts répétés dimanche. Si vous n'avez pas vu les volets de cet après-midi, vous pourrez les voir demain. Un panorama absolument éclectique, surprenant, concocté par Marco Deblois, qui est programmateur conservateur à la Cinémathèque québécoise et qui, chaque année, remet sur le tapis son travail de défricheur de nouvelles propositions en cinéma d'animation pour faire cette sélection. Je dirais qu'on essaiera de parler un peu des choix qui ont prévalu pour cette sélection qu'on a cette année. Mais auparavant, j'ai envie, Marco, qu'on parle un peu des sommets d'animation, des sommets du cinéma d'animation de Québec et de Montréal. Quelle est la légitimité de ces sommets-là dans le paysage cinématographique québécois? Qu'est-ce qu'il y a à défendre en termes de diffusion de cinéma à travers ces programmations qu'on propose à Montréal et à Québec ces jours-ci?
Bonjour Guillaume.
Bonjour Marco.
Large, vaste question. Il faut d'abord rappeler que les sommets donc sont nés en 2002. J'avais à l'époque rencontré Fabrice Montal, qui était directeur artistique d'Antitube à Québec. Nous, on présentait depuis déjà plusieurs années une sélection des meilleurs films d'animation de l'année à la Cinémathèque québécoise. Mais j'avais le désir d'accroître l'ampleur de cette programmation, non seulement de la faire grandir au sein de la programmation de la Cinémathèque, mais aussi géographiquement. Et donc, j'avais donc approché Antitube pour proposer que les films soient également vus à Québec. Pour la raison suivante, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait, Montréal, le Québec et maintenant la ville de Québec sont des lieux très importants dans le domaine du film d'animation. En ce qui concerne le Canada, il y a évidemment la fondation de l'ONF en 1939, l'arrivée de Norman McLaren en 1940, qui a permis l'émergence d'une animation canadienne, une animation qui se caractérise par sa variété, par son côté très éclectique. McLaren disait il n'y a pas une technique pour faire un film, il y a des idées, il y a des techniques qu'on doit développer de façon à soutenir les idées. Et j'ai l'habitude d'aller dans certains festivals à l'étranger et je m'apercevais d'une situation un peu absurde, c'est-à-dire pour pouvoir voir les animateurs d'ici, il fallait aller les rencontrer dans des pays exotiques ou alors au Festival d'Ottawa qui existe depuis 1976. Donc, l'objectif des sommets à l'origine était de non seulement de proposer aux spectateurs de Montréal et de Québec une belle sélection des meilleurs films d'animation de l'année, mais aussi de créer un rassemblement des forces vives, des artistes, des artisans, des techniciens, des gens du milieu, des producteurs, etc. Bon, évidemment, à l'origine, c'était modeste, mais ça s'est néanmoins développé au fil des ans, toujours dans l'idée que les sommets sont un seul, c'est-à-dire que c'est un festival qui se tient dans deux villes. Mm-hmm. Ce n'est pas deux festivals qui évoluent en parallèle et de façon complètement séparée. D'ailleurs, il y a une partie de la programmation de Québec qui est présentée à Montréal et dans chaque ville s'ajoutent des programmations en fonction des désirs locaux. Donc, pour moi, c'est une formule qui nous permet de jumeler les deux villes, donc de les réunir. Et maintenant, on se retrouve avec une programmation importante à la fois à Montréal et à Québec. Et je pense que les sommets remplissent bien son rôle d'être un événement majeur visant à mettre en valeur le cinéma d'animation et aussi surtout à présenter les films d'animation parce que Internet permet de voir plusieurs films, mais pas tout. Et donc, il faut qu'il y ait un endroit comme un festival de films d'animation, c'est-à-dire les sommets, pour que les gens puissent assister aux meilleures œuvres de l'année.
Quand je t'entends parler des sommets de cette manière-là, j'ai l'impression que ça devrait aller de soi, mais il faut peut-être le souligner à travers un événement de la sorte, le fait de vouloir créer une sorte de momentum où la communauté intéressée par le cinéma d'animation au sens large est sollicitée. Il y a aussi l'envie probablement de créer une forme d'émulation, sachant qu'il y a des créateurs extraordinaires qui travaillent au Québec depuis des décennies. Il y a peut-être la question à un moment donné qui s'est posée, parce que là, je me le demande, là, il y a 9 ans, j'ai pas nécessairement à l'esprit quel était le paysage en place, mais on pouvait peut-être se poser la question de la pérennité d'une certaine tradition du cinéma d'animation qui devenait peut-être problématique, c'est une hypothèse, là, compte tenu des diverses plateformes de diffusion, puis du fait que les gens intéressés par cette forme d'expression cinématographique se rencontraient pas tout le temps. Mm-hmm. Il y a 10 ans, je pense que c'est encore moins enseigné dans les écoles et à l'université.
Ouais, ben à Montréal, il y a l'Université Concordia qui a un programme en animation depuis déjà plusieurs années, Cégep du Vieux-Montréal, bon, il y a des écoles privées comme le Centre NAD. Bon, à Québec, l'Université Laval a maintenant un baccalauréat en sciences de l'animation. Donc, sur le plan de l'éducation, il y a des professeurs, il y a des étudiants, il y a une transmission du savoir. Ça m'inquiète pas trop. Mm-hmm. Et de façon à pouvoir canaliser tout ça et aussi créer de l'émulation, comme tu le disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une agora annuelle. Et je sais pour ma part que les étudiants, bon, qui sont surchargés de travaux, ont tendance parfois à s'isoler devant leurs ordinateurs et donc à se concentrer presque uniquement à leurs travaux. Et ça, je sais parfois que c'est difficile de les faire sortir, mais je pense qu'il est profitable que des étudiants puissent être mis en présence de certains films de façon à ce que ça puisse donc les inspirer et aussi enrichir, donner à la fois du corps et de la pertinence à leur travail.
Oui. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas toujours un couloir direct entre la salle de cinéma et la classe
de l'université ou de cégep. Il faut dire que la programmation, bon, tu employais le mot éclectique tout à l'heure, la programmation des sommets s'appuie sur une sorte de pluralisme. Je ne vise pas à rendre compte d'un genre ou d'une tendance. Ce n'est ni un festival de cartoons, ni un festival de films expérimentaux. Bon, l'animation, ce n'est qu'une technique visant à produire du mouvement image par image. Et à partir de là, il peut y avoir toutes sortes de déclinaisons, il peut y avoir toutes sortes de possibles quant à l'animation. Et c'est ce que je vise, de mettre de montrer qu'il y a plusieurs façons de concevoir ce qu'est l'animation. Et c'est pour ça que la programmation est assez large. On va du film expérimental au film narratif, il y a des films drôles, il y a des films dramatiques. Et pour moi, ça crée une sorte de bouillonnement, une sorte de maelstrom, si on veut. Et je pense que ça n'est peut-être que bénéfique dans la façon d'inspirer à la fois les futurs créateurs et aussi de renseigner les spectateurs sur ce que peut être le cinéma d'animation.
Ben écoute, c'est super intéressant. J'aurais envie de te relancer après la pause pour un dernier 5 minutes de manière plus concrète sur des choix en ce qui a trait au panorama international. Ce qui ne veut pas dire seulement parler des films qui sont présentés, mais aussi de la manière dont tu réussis à avoir accès aux films, comment tu t'y prends. C'est ce que je propose après la pause. À tout de suite.
Tous les jours de la semaine, de 9h30 à 11h30, la boîte à pain Café Napoli vous présente l'émission Univers francophone sur les ondes de CKRL. Une matinée bercée par la meilleure musique d'expression française, à l'image de l'ambiance chaleureuse et décontractée qui règne à la boîte à pain Café Napoli. Réputée pour la qualité de son pain artisanal avec près de 40 variétés, on vous propose aussi un merveilleux menu santé que vous pourrez emporter ou manger sur place. Une sélection de sandwichs, salades et pizzas cuites au four à bois font partie des délices offerts, sans parler des desserts irrésistibles. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph-Est, 418-647-3666 ou le 418-977-7571, boiteapain.com.
Dans l'édition de novembre du journal Droit de parole, le premier forum québécois sur l'eau. Le Saint-Laurent s'assèchera, prédit un ingénieur à la retraite. Où l'industrie gazière puisera-t-elle son eau? Un dossier de Renaud Blais. Aussi, la face cachée de la coopérative d'habitation. Livre, l'action précède la pensée. Et plus encore. Droit de parole, disponible gratuitement en présentoir dans les quartiers centraux. Droitdeparole.org.
Prenez votre droit de parole. Bal du Lézard.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, tous genres confondus.
En décembre, ne manquez pas Jazz avec 4-in-1 le 3, Andrea Ramolo le 7, les Battle Slack le 9, le party des 25 ans du bal avec spectacle amateur et DJ le 11, Rodéo Mécanique le 18 et le 31, la soirée Bye Bye 2010. Le bal du Lézard, 1049, 3e avenue.
Il y a des traditions qu'on oublie et d'autres que l'on redécouvre. Comme celle du gâteau aux fruits revisité pour le temps des fêtes par la boîte à pain Café Napoli. Un savant mélange de canneberge, d'abricots, de raisins, de dattes et de noix de Grenoble avec une pointe d'épices. Une recette succulente et une fraîcheur renversante qui sèmera la joie dans votre entourage. Vous avez jusqu'au 22 décembre pour profiter de cette offre festive et passer votre commande. Pour un gâteau complet, deux jours à l'avance, à la boîte à pain Café Napoli. Au 88-977-7571. Notez qu'il sera également possible de les déguster sur place jusqu'au 24 décembre.
CKRL. Cultive tes goûts.
Oui, vous écoutez au 7e ciel, Guillaume Lafleur avec vous en compagnie de Marco Deblois pour le dernier bloc, en fait la dernière demi-heure consacrée essentiellement au cinéma d'animation et en particulier au 9e sommet du cinéma d'animation, un événement qui a lieu au Musée de la Civilisation toute la fin de semaine et qui est organisé avec Antitube et la Cinémathèque québécoise. Marco Deblois, rebonjour.
Rebonjour, Guillaume.
Comme je te disais, je te propose de te relancer en parlant peut-être de la manière très concrète dont tu élabores une programmation comme celle du panorama international qu'on va voir au cours de la fin de semaine au sommet.
Les films sont repérés d'une part dans les quelques festivals d'animation où j'ai la possibilité d'aller. Cette année, ça a été d'abord le festival de Zagreb en Russie, en Croatie.
Ex-Union soviétique.
Non, c'est ça. Donc, Zagreb en Croatie, qui est un grand festival d'animation très important. Bon, ensuite, Annecy, qui est le Cannes de l'animation, un grand festival avec un grand marché. C'est aussi un rendez-vous mondial. Tous les gens du milieu y vont.
Un rendez-vous mondain aussi, donc.
Et un rendez-vous mondain pour faire des affaires aussi. Et ensuite, je suis allé au festival Fantoche à Baden, en Suisse, au mois de septembre. Donc, ça a été des trois événements où j'ai pu commencer à faire une sélection. Et cette année, il y a des films qui m'ont été soumis, dont un film qui a été présenté cet après-midi à la séance de 15h qui s'appelle Danny Boy, une coproduction Pologne et Suisse. Donc, en termes concrets, l'acquisition, en fait, la sélection, le repérage se fait de la façon suivante. Bon, à la suite de ça, on sélectionne des films. Celui-là est intéressant, celui-là plus ou moins. Et après ça, il faut composer des programmes. Et les programmes, je les compose un peu à la façon d'une pièce musicale. C'est-à-dire que je ne sais pas de m'orienter dans un thème ou dans une thématique. Il s'agit de créer des rythmes. Alors, il s'agit de savoir comment placer un film long, comment placer un film court, un film au rythme lent, un film au rythme rapide, de façon à ce que ça donne une sorte de cohérence musicale à l'ensemble. Et parfois, on a besoin, un exemple très, très simple, on a besoin, ce qui est très utile pour les programmateurs, un film court, drôle. C'est toujours une ponctuation, une petite virgule qui vient alléger le programme et qui nous permet aussi, après ça, de réorienter le programme et de l'amener vers d'autres... dans une autre direction. Donc, c'est pas un travail scientifique, c'est un travail qui est presque intuitif.
Oui, oui.
Parfois, oui. On regarde une séance, on se dit, ouf, pourquoi je l'ai placé là? Celui-là, j'aurais dû le placer ailleurs. Ou alors, on se dit, mais pourquoi j'ai mis ces deux films-là ensemble? Il y a des analogies qui font que les films se contredisent ou se répètent. Bon, enfin, bref. Mais c'est de cette façon qu'on construit une sélection, une programmation de court-métrage.
Oui, donc, très intuitivement, entre autres, la question du rythme joue un rôle essentiel, oui, puis oui. Aussi rupture de ton, hein, comme tu le dis, un moment comique, c'est comme un point-virgule dans une programmation qui permet de bien faire une transition en allégeant, par exemple, le propos si voilà. Auparavant, les films qui avaient été présentés étaient assez denses dans leur proposition plastique ou dans leur proposition dramaturgique. Peut-être un dernier truc, Marco, puis après, je te laisse vaquer parce que les sommets, ça se déroule sur 3 jours et puis il y a encore quelques autres programmes à présenter d'ici demain. la question qui tue, en fait, où là, je prends la posture du journaliste typique, là, ou ce qui est un déguisement que je porte parfois au cours de cette émission. Donc, quel film te semblerait, un film ou deux, en fait, te semblerait une sorte de coup de cœur dans ta programmation? C'est épouvantable d'utiliser ce terme-là. En tout cas, comme tu vas prendre le temps d'élaborer, on n'est pas devant une vitrine à essayer simplement de mettre un poinçon sur un film. Quel film en particulier t'a saisi cette année dans le panorama?
Deux titres? J'ai droit à deux titres?
Oui, absolument. Tu peux en prendre trois.
OK, merci, c'est gentil. Parfait. J'aime, du côté de l'animation québécoise, j'ai beaucoup d'affection pour les journaux de l'IPSET, de Théodore Houchev, qui est une plongée dans la création et dans la vie d'Arthur Lipset, qui a été un grand cinéaste expérimental, qui a travaillé à l'Office national du film et qui s'est suicidé dans les années 70, si je me souviens bien. Donc, Théodore Houchev, Donc, Théodore Houchev a puisé dans les archives de l'IPSET de façon à rendre compte non seulement de la création de l'IPSET, mais aussi de son état de santé mentale. Et le film nous emporte donc dans un tourbillon à la fois esthétique et un tourbillon de sens et constitue un extraordinaire voyage à la fois au pays de la création, mais aussi au pays de la dépression. Un film qui est présenté ce soir, The External World, qui est un chef-d'œuvre d'humour noir, un film avec des dents, un film qui mord, de David O'Reilly. Il avait réalisé l'année dernière Please Say Something, qu'on avait présenté, et c'est un film qui, à la fois, qui porte un regard très noir, très dur, mais en même temps étrangement tendre et aussi très drôle sur l'état du monde actuel. Le résumé du film se dit en quelques mots. Un jeune garçon apprend le piano dans un monde absurde. Et après ça, le monde absurde que nous présente le film est à la fois monstrueux, mais assez ressemblant à ce qu'on peut vivre. Et enfin, Divers in the Rain, qui est présenté ce soir également, de Prit et Olga Parn, un film estonien, une extraordinaire comédie qui nous montre comment des sauveteurs réagissent quand un navire sombre dans la mer. Je vous en dis pas plus.
Ben Marco, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler un peu des sommets du cinéma d'animation de Québec qui se déroulent jusqu'à demain. Je sais qu'il y a encore pas mal de kilomètres de pellicules, là j'exagère. Mais...
et de bandes magnétiques.
Oui, et de bandes magnétiques qui vont être projetées d'ici là et qu'on va regarder. Donc, merci d'avoir pris le temps d'être ici. Et puis, on se dit à très bientôt, je crois.
Merci bien.
Encore est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme que j'aime, et moi seul est la clé. Mon corps est une cage qui m'empêche de danser avec l'homme. Oh,
fabriqué, il a dit amen sans jamais pardonner. Je suis toujours à l'âge où je m'entends crier, je résonne même quand ma bouche est fermée. Mon corps est une cage.
Alors, nous sommes de retour au 7e ciel. Je crois que tout le monde a reconnu une adaptation de Arcade Fire, My Body is a Cage, reprise par Jean Chéral. Alors, c'est peut-être un peu ironique, mais c'est le contenu francophone de l'émission aujourd'hui. On respecte les quotas. Et puis, en même temps, c'est assez amusant d'entendre cette version. Je laisse à chacun juger du résultat. C'est tiré du dernier album de Jean Chéral, Charade. Alors maintenant, on reçoit Jean-Baptiste Garnero, qui est... programmateur, documentaliste aux Archives françaises du film. Il est invité des sommets du cinéma d'animation de Québec et Montréal suite à une commande en fait, de la Cinémathèque québécoise de faire une programmation de films publicitaires réalisés entre les années 10 et 70. Mais on suppose que ce n'est pas vraiment une commande, mais plutôt un dialogue entre Montréal et Paris qui a permis de mener à cette programmation. C'est assez clair, je crois qu'il y a, un échange de bons procédés. Maintenant, j'ai envie de parler avec Jean-Baptiste non seulement de cette programmation, mais aussi plus simplement, en fait, ou de manière plus large, sans trop se perdre, du rôle des Archives françaises du film actuellement dans le paysage audiovisuel français et au-delà.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Jean-Baptiste.
Alors, quel est le rôle des archives dans le paysage audiovisuel français, comme tu dis si bien? Le paysage audiovisuel français, il est un peu compliqué, parce qu'en France, on aime bien attribuer une fonction à une institution, ce qui est en soi pas trop mal, en fait, dans la pratique, puisque les archives, elles ont été créées il y a 40 ans, 69, donc un peu plus de 40 ans, sous l'impulsion d'André Malraux, qui était ministre des Affaires culturelles de l'époque, donc ce qu'on peut appeler ministre de la Culture d'aujourd'hui. Et en fait, elle visait, dans un premier temps, surtout à collecter, mais aussi à faire un inventaire national des collections cinématographiques. Il ne faut quand même pas oublier que la France, c'était le premier pays du cinéma, le premier empire cinématographique au monde. Et donc, on a eu quand même une production très, très variée et très importante. Et on l'a d'ailleurs encore, et tant mieux, même si on a perdu un peu notre hégémonie face aux Américains. Et donc l'intérêt des archives a été de collecter justement un nombre incalculable de collections de pré-cinéma, donc tout ce qui était avant le cinéma, mais même la première collection en tant que telle, puisque la collection des Frères Lumière, donc les 1500 films des Frères Lumière qui ont été réalisés, et puis un peu plus tard les premiers comiques, les premiers longs métrages muets, le passage du mot parlant, etc., jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on s'occupe également donc du dépôt légal des œuvres, à savoir que chaque œuvre qui sort sur le territoire français, que ce soit court ou long métrage, on doit avoir une copie aux archives à des fins de conservation, mais aussi de consultation, de communication au public. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. En fait, on fonctionne un peu comme une bibliothèque, sauf que à la place de livres, nous avons des images. Alors, on nous confond souvent avec une autre institution en France qui, là, conserve justement là où nous sommes aujourd'hui, à savoir les émissions de radio, mais aussi la télé, qui s'appelle l'Institut National de l'Audiovisuel, qui s'appelle l'INA, qui a été créé, je crois, dans les années 60 ou 50, je ne sais plus exactement, et qui a donc ses fonds aussi également propres. Donc nous sommes complémentaires en fait avec cette institution. Et puis il y en a une autre qui est là, qui n'est pas non plus négligeable, puisqu'elle est très ancienne, c'est la Cinémathèque française, mais là qui est une association, donc loi 1901, à but non lucratif, donc qui était une association, en fait c'est une institution privée, alors que nous sommes l'État, et nous dépendons donc du Centre national de la cinématographie, de l'image animée, qui était un organisme qui vise à justement organiser la production cinématographique, mais aussi l'exploitation des films en salle, mais aussi des productions audiovisuelles dans son ensemble, et qui surtout perçoit des taxes pour les redistribuer intégralement ou quasi intégralement à la profession. Donc c'est quelque chose qui... un système de financement et une politique très incitative visant à soutenir justement la production cinématographique nationale.
Et dis-moi, en fait, lorsqu'on parle d'archives françaises du film, le terme film, est-ce qu'il correspond à une terminologie comprise au sens large, là, c'est-à-dire que, et c'est peut-être pour ça qu'on confond à ce moment-là l'archive française du film et l'INA, c'est qu'il y a aussi des archives audiovisuelles et télévisuelles qui sont incluses dans votre fonds.
Alors, on en a, mais très très peu, c'est assez marginal en fait. Quand on entend film, c'est vraiment le film support photochimique, sur tout format. Mais photochimique, donc généralement c'est du 35 mm bien évidemment, ou du 16 mm, avec leurs variantes et leur format de projection, on va dire, associé. Mais c'est aussi des formats, ce qu'on appelle des formats substandards. Par exemple, dans les années 20, on avait le 9.5, qui était en fait l'ancêtre du Super 8, mis en place par Pathé, pour justement que le cinéma rentre dans les familles. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas la télé, donc il n'y avait que le cinéma comme mode de diffusion. Et il a été très largement utilisé aussi bien pour des fictions, mais aussi pour des films d'éducation, des films hygiénistes, des films de propagande, etc. Tout ça a été passé par le vecteur du cinématographe, dans la salle de cinéma. Et puis, il y a d'autres formats, 17.5, 28 mm, 100 mm pour des formats encore plus anciens, etc. Donc, on essaye de conserver tout ça, parce que c'est une mémoire aussi, quand même, de l'industrie. Le cinéma, c'est avant tout une industrie avant d'être un art. Donc, ce sont des successions, en fait, d'inventions et de procédés cinématographiques qui se sont comme ça empilés et succédés au fur et à mesure des années avant de trouver une stabilité avec le 35 mm et le 16 mm que la plupart des gens connaissent. Et pour la vidéo, on ne collecte pas directement la vidéo, on estime ne pas être en mesure de conserver pour l'instant ce genre de matériel, sachant qu'il y a quand même l'INA et puis aussi la BNF qui collecte aussi quand même la vidéo. Sachant que nous, on a quand même une échelle de temps un peu particulière, on réfléchit plutôt au minimum 50 ans. Donc effectivement, ce sont des choses, on ne prend pas forcément des décisions à la légère, mais on s'adapte forcément, puisqu'on a maintenant des films qui sont réalisés, produits et même diffusés de plus en plus, et qui vont l'être du moins de plus en plus en numérique. En HD, en DCP, en tout ce qu'on veut, 2K, 4K, enfin, peu importe le mode de diffusion, mais en tout cas, le support photochimique ne sera plus là. Et donc, on est en train de réfléchir justement à un mode de report ou de moins de sauvegarde, mais à très long terme, de ces fichiers numériques pour justement éviter que ces films ne disparaissent.
Oui, ben en fait, la conservation du numérique, c'est un vaste problème, sans doute, qui, pour l'instant, ça nous semble pratiquement abyssal par rapport aux celluloïdes. On a l'impression que la durée de vie de ces fichiers-là est tellement brève qu'on se demande...
À titre d'exemple, on a mené un plan de restauration. Il faut savoir qu'on est l'une des 5 plus grandes archives cinématographiques au monde en termes de volume. On a 100 000 titres référencés chez nous, 1 million de boîtes. Tout ça réparti, alors je sais pas, c'est pas la même unité de mesure, mais en France on parle d'hectares. Donc nous on a 3 hectares, on est dans un ancien fort militaire.
C'est 3 hectares de... Ouais.
Donc c'est assez grand et on a plusieurs bâtiments comme ça dédiés à certains types de supports, y compris les films flammes qui ont été utilisés, donc ce film nitrate, en nitrate de cellulose qui a été utilisé jusque dans le milieu des années 50. Et justement on a mené pendant 15 années de suite, grâce au financement du ministère de la Culture chez nous, un vaste plan de sauvegarde de ces films anciens. Je parlais des films Lumière, ils ont été sauvegardés grâce à cet argent. Et maintenant, ils sont visibles, on peut même retirer de nouvelles copies, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et nous, on est pratiquement tranquille par rapport à ça, parce que le support film ne bouge pas. Nos collègues de l'INA, eux, une fois qu'ils ont numérisé, Marco parlait par exemple de bandes magnétiques, que ce soit du bêta-SP ou du bêta-NUM, même si la recopie est plus facile, puisque là, on part d'un disque dur, on migre vers un autre disque dur, c'est une recopie... qui perpétuelle. Et on est condamné à ça. Alors que là, au moins, avec le photochimique, mais si on n'y touche pas, si on stocke ça dans de bonnes conditions, eh bien, on est vraiment tranquille pendant, a priori, plus d'une centaine d'années. Même certains spécialistes parlent avec les nouvelles pellicules de 300 ans. Donc,
J'ai lu un communiqué dernièrement sur un nouveau tirage en pellicule de Metropolis de Fritz Lang qui était fait pour une durée de 1000 ans, mais c'est peut-être un peu exagéré.
Ça dépend.
Ça se pourrait.
Par exemple, il y a une nouvelle pellicule qu'il y a maintenant depuis 20 ans sur le marché, qui est une pellicule polyester. Donc c'est du plastique, c'est neutre. Donc ça ne bouge pas et il y a une couche photochimique dessus. Et effectivement, on a fait nos restaurations là-dessus et c'est quelque chose qui est effectivement chimiquement assez stable. Donc on a de grands espoirs là-dessus puisque effectivement, on ne sera pas, personne ne sera là pour dire comment on pourra visionner ces films-là dans 100 ans ou dans 200 ans. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que à choisir entre mon film Super 8 de famille et ma cassette VHS, je sais que mon film Super 8, je peux encore le revoir aujourd'hui, alors que la VHS, c'est déjà très difficile.
C'est passionnant, il y aurait toute une émission évidemment à faire sur ces questions de conservation. J'aimerais te relancer maintenant, comme je le disais au début, sur cette programmation, plus précisément Fignol et Main, qui était proposée hier au Musée de la Civilisation et qui sera reproposée la semaine prochaine à la Cinémathèque québécoise. Donc, peux-tu nous parler un peu de tes choix et qu'est-ce qui relie tous ces films?
Dans le cadre de mes activités, en fait, on collabore souvent avec la Cinémathèque québécoise, on leur prête certaines copies. Pas forcément d'ailleurs dans le cadre des sommets, mais c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, on collabore avec moi et Marco à des programmations, des coups de cœur qu'on souhaite justement avoir et montrer ensemble dans le cadre de ces sommets. Et cette année, moi je voulais montrer des films publicitaires. C'est un corpus de films que l'on a aussi aux archives qui est assez important. On doit avoir près de, je pense, 10 000 films publicitaires français. De toutes les époques confondues, des années 10 jusqu'en 2010, puisque là aussi, on a aussi le dépôt légal des films publicitaires. Et donc je voulais un peu valoriser, ressortir certains réalisateurs, certaines publicités des années 10 aux années 70, parce que justement, au niveau de l'animation, il y avait vraiment une réelle production, une réelle démarche esthétique, technique, liée à ces films publicitaires. Et donc, j'en ai visionné à peu près plus d'une centaine, pour en sélectionner au final que 45, muets et sonores, couleurs ou noir et blanc, de toute époque confondue, toujours confondue, et avec des techniques quand même assez variées, du dessin animé au volume, en passant par la photo animée, enfin bon, des choses comme ça assez hétérogènes, mais assez gaies, en fait. Et ce que je disais hier, justement, dans ma présentation, c'est que tous ces films, même si on peut les voir maintenant avec un regard peut-être un peu désuet,
un peu condescendant.
En disant « Ah, c'est le cinéma de papa, c'est des choses un peu vieux. » Bon, en fait, c'est d'un point de vue strictement, au-delà de l'aspect technique ou jovial de ces films, il y a aussi quand même le témoignage quand même des habitudes de la société de l'époque, de la manière dont on concevait tel ou tel rapport entre les femmes, par exemple, comment on voyait l'économie, comment on voyait le progrès, comment on voyait aussi les habitudes de consommation des Français, des nouveautés, par exemple, des publicités pour des barres chocolatées ou d'autres choses, ou par exemple le grand essor de la voiture avec tout ce que ça représente, avec cette sorte d'autonomie offerte aux personnes, le fait d'avoir une voiture, d'avoir affiché une classe sociale aussi par rapport à la voiture. Il y a certaines idées qui étaient déjà en germe dans ces films publicitaires qui le sont encore d'actualité aujourd'hui.
Oui, en fait, peut-être qu'on pourrait terminer là-dessus en me disant ce que tu en penses. Plusieurs commentaires qui ressortaient après la présentation d'hier de cette série de films Fignol et Main, c'était la surprise de constater à quel point les cinéastes dont on voyait le travail publicitaire dans le programme jouissaient, semble-t-il, d'une grande liberté, en fait. Liberté de ton, liberté d'expérimenter.
Oui.
Est-ce que les employeurs de ces publicitaires recherchaient ça?
Alors ça, on a malheureusement peu de documents et il y a très peu eu on va dire, d'écrit, enfin de synthèse. Il y a des articles, il y a eu une rétrospective il y a 3 ans au Musée des Arts Décoratifs sur justement l'art du film publicitaire dans l'animation. Il y a eu des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu réellement de livres là-dessus ou avec des sources un peu scientifiques. Sources écrites. Moi, ce que je dirais surtout, c'est que ces publicités passaient souvent et la plupart du temps au cinéma. Et en fait, c'était des films d'un seul homme, d'une seule personne qui faisait tout de A jusqu'à Z, du scénar image à la réalisation, en passant par l'animation. Et donc c'était vraiment des petites œuvres artistiques qui étaient proposées. Alors après, est-ce que tel ou tel projet était refusé et que en fait c'était le troisième projet qui était accepté, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ce sont des très très beaux témoignages.
Oui, c'est un programme tout à fait passionnant. Vous avez l'occasion de passer à Montréal la semaine prochaine pour le revoir ou le voir. Je vous le conseille vivement. Merci Jean-Baptiste Gardéon de nous avoir concocté ce programme tout à fait inspirant. Merci d'avoir pris le temps de venir parler un peu en cette fin d'après-midi. C'est tout pour aujourd'hui pour l'émission 7e ciel. On se revoit la semaine prochaine, évidemment. Je remercie Jean-Baptiste Gardéon. En fait, je serai pas là la semaine prochaine. Plutôt, on se reparle dans 2 semaines. Je serai remplacé par un ordinateur qui diffusera de la musique probablement. Merci Jean-Baptiste Garnéon d'avoir été là. Merci Marco Deblois. Merci John Blouin. On se dit à très bientôt.